Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez AC Live sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Emre, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale accompagnée de Lou, réalisée par des élèves de première STMG de Albert Camus. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Au programme aujourd'hui, nous écouterons une interview sur le scandale des enfants de la Creuse et un parallèle sur ce qui se passait en Espagne sous la dictature franquiste. Nous accueillerons ensuite des camarades pour parler des avortements et des stérilisations forcées à La Réunion. On enchaînera sur une discussion sur l'inclusion du théâtre côté public et artistique. Pour la suite, on vous propose une chronique à plusieurs voix sur la thématique du droit des femmes. Nous finirons cette émission avec un récit fictionnel autour de la pièce. C'est parti pour AC Live.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Avec notre classe de 1T1, nous sommes allés voir la pièce de théâtre Doux Moon au théâtre de l'Avant-Scène à Colombes. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le sujet et qu'on vous a préparé cette émission. Tout de suite, on accueille Rita, Nerea, Zoé, Lou et Raphaël qui vont vous présenter la pièce.
Merci Emre. Nous avons vu une pièce qui s'appelle Doux Moon. C'est un mot en créole qui veut dire humain. Et dans le contexte du spectacle, il symbolise la recherche d'identité plus la dignité. Cette pièce a été écrite et interprétée par Sergio Grondin, un artiste réunionnais qui tenait à dénoncer cette affaire touchante trop longtemps passée sous silence. Il mêle témoignage, émotion et musique. On est parti voir la pièce au théâtre de l'Avant-Scène à Colombes. La pièce a duré environ 1h15. Il y avait 2 personnes sur scène, Sergio Grondin, le comédien, et Claire Nativelle, la chanteuse. Ce qui nous a interpellés, c'est qu'il y avait peu de décors, voire pas du tout. Il y avait une estrade avec un micro et une table de mixage. Et il y avait un jeu de lumière. C'est-à-dire quand il y avait une personne qui parlait, il y avait la lumière qui se mettait sur cette personne et ça favorisait la compréhension.
Sur scène, Sergio Grondin, comédien et acteur réunionnais, transforme cet événement en théâtre documentaire, où la parole devient mémoire. Fidèle à la tradition orale de son île, il raconte à la fois l'histoire collective des enfants de la Creuse et de l'ami de sa mère.
Dans cette pièce, les sujets de la stérilisation et des enfants de la Creuse sont abordés. Dans les années 1960 et 1970, à La Réunion, beaucoup de femmes ont subi des avortements et des stérilisations sans leurs accords pour limiter le nombre de la population. Entre 1963 et 1982, plus de 2000 enfants réunionnais ont été envoyés de force vers la métropole. Leur but était de peupler les campagnes françaises.
Au cœur de l'océan Indien, la Réunion vit alors sous la domination de Paris. L'île devenue département français en 1946 porte encore une marque profonde de la colonisation. Pauvreté, inégalité, chômage, une société profondément divisée entre minorité de riches propriétaires et une majorité de familles modestes.
Dans les années 60, il faut savoir que le taux des naissances à la Réunion est très élevé. Les familles ont souvent 5 à 8 enfants, et plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Il n'y a donc pas assez d'infrastructures pour répondre aux besoins de cette population, et, dans ce contexte, l'État français a peur que la pauvreté et les injustices sociales provoquent une révolte, sachant qu'à l'époque, on était en pleine guerre froide.
Merci à vous.
Bonjour, je suis Lou, votre deuxième présentatrice, et maintenant, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à nos journalistes Liam et Rémi. Vous recevez aujourd'hui Naïm et Youssef, qui sont historiens. Vous allez nous parler des scandales des enfants de la Creuse et des enlèvements des enfants en Espagne. Liam, je te donne la parole.
Bonjour, je m'appelle Liam. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de l'historien Naïm, spécialiste de l'histoire des enfants de la Creuse. Je pense que nous voulons en savoir plus sur ce qui s'est passé durant cette période. Monsieur Naïm, pouvez-vous nous expliquer qui sont les enfants de la Creuse ?
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, les enfants de la Creuse est un drame historique qui s'est déroulé de 1963 à 1982, où environ 2000 enfants réunionnais issus de familles pauvres ont été enlevés à leurs parents et qu'on a déportés dans les zones rurales françaises, notamment la Creuse, d'où le nom Enfants de la Creuse.
À vous entendre, cela semble invraisemblable et irréaliste. C'est quand même une histoire assez choquante, je ne pensais pas que ça s'était passé comme ça. Et du coup, pour mieux comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte ça s'est produit en métropole tout comme en Réunion ?
Durant les années 60, en France métropolitaine, La France métropolitaine connaît une forte exode rurale, notamment dans la Creuse. Beaucoup partent en ville dans le but de trouver du travail, ce qui va créer un manque de main-d'œuvre à la campagne. Les écoles seront obligées de fermer, l'économie et la population chutent. Tandis qu'à La Réunion dans les années 60, c'est très inégalitaire. Les infrastructures sont peu développées, le chômage et la pauvreté touchent une grande partie de la population. Le taux de natalité est très élevé avec une moyenne de 8 enfants par famille. La Réunion connaît un manque d'argent, d'infrastructures et de travail et des conditions déplorables pour accueillir autant d'enfants. Les services sociaux jugent que pour sauver ces enfants, il faut les placer ailleurs.
On voit bien que la situation était compliquée autant en métropole qu'à La Réunion. Les services sociaux ayant jugé ça favorable, cela veut dire que l'État a approuvé et orchestré ces déportations ?
Oui, tout cela a été mis en place par l'État, notamment l'ancien Premier ministre Michel Debré, devenu le député de La Réunion en 1963, qui estimait que cela serait bénéfique.
Pour quelles raisons et comment ont-ils fait ?
Pour deux raisons. Repeupler les régions rurales en leur donnant des enfants à éduquer et qui pourraient travailler dans les champs, et pour, je cite, « alléger la pauvreté en Réunion ». L'État français vendait ça comme étant bénéfique, mais cela montre un manque d'humanité et un racisme institutionnel. Car en réalité, des contrats étaient faits signer à des parents analphabètes, les enfants étaient placés en famille d'accueil, en foyer, sans aucun suivi, où ils étaient victimes de racisme et étaient traités plus comme de la main-d'œuvre que comme des humains.
Après ça, on imagine que la France a reconnu ses torts et a essayé de se racheter.
Non, l'État a essayé de camoufler cette histoire un maximum de temps. Elle a été reconnue le 18 février 2014 par l'Assemblée nationale et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette histoire.
Merci beaucoup, monsieur Naïm, d'être venu.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Liam. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui s'est passé durant la même période, la dictature de Franco en Espagne, et notamment les enfants de Franco. Pour cela, je vais recevoir l'historien Youssef qui va répondre à mes questions. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bonjour Rémi. Alors pendant la dictature du général Franco en Espagne, de 1939 à 1975, il y a eu une énorme affaire de bébés volés. Des femmes accouchées à l'hôpital, et on leur a fait croire que leurs bébés étaient morts, mais en réalité, les bébés étaient vivants, et ils étaient donnés ou vendus à d'autres familles, souvent riches ou proches du régime franquiste.
Comment ça s'est passé ?
Les mères accouchaient souvent sous anesthésie, les médecins ou les religieuses disaient que le bébé était mort. Si la mère demandait à le voir, on lui montrait parfois le corps d'un autre bébé. Puis, son enfant était donné à une autre famille, avec de faux papiers, disant que c'était leur enfant biologique.
Pourquoi c'est important d'en parler ?
C'est parce qu'il y a eu des milliers d'enfants volés entre les années 1940 et 1990. Pour beaucoup de familles, c'est une façon de chercher la vérité et d'obtenir justice après des décennies de silence. Un procès a été ouvert en 2018, après 48 ans de silence.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Il y a eu 2000 plaintes déposées par des particuliers s'estimant victimes de ces pratiques. Plus de 1700 auraient été classées sans suite. Aujourd'hui, cela reste une période sombre de l'Espagne. 1700 personnes restent dans l'ombre de l'Espagne. On espère qu'avec les tests ADN, ils pourront retrouver leur famille et la vérité.
Merci pour votre temps et vos informations.
De rien. Merci Rémi, au revoir.
Merci à tous. La suite arrive sur AC Live.
En off, regard froid, leur délice aux dissimulations. Les affaires sont bien dissimulées. Troisième AT, je suis déjà à 420. Première ligne, on n'a pas froid aux yeux. Mais on a froid en Dieu. Mais si on chauffe, on peut 302. Comme à l'époque des descentes en 4-2, filoché par la poule. Sans le SD, y'a zéro temps d'attente. Tarte au P habite de ses deux mains. Victime à découvert, c'est du gâteau. Sache qu'on n'est pas débile. Charo, tu fais mal à la tête. En bas, tes histoires à dormir debout. Ou dans la foulée, tu vas grailler de boulet. Y'avait plus personne quand l'équipe déboulait. J'ai aucun regret de façon, ça s'est coulé. Ennemi localisé dans la coulée. J'ai un arme notée dans la foulée. Pendant qu'il rate dans son quartier, on rôde. À moi tout seul, je peux lui régler son compte. Mais je préfère faire parler les contacts. Deux fois deux. Après deux fois proche, je fais sans le meuf.
Pour la paix. Igo, c'est chacun sa paye. Le week-end, c'est chacun sa taille.
Le week-end, c'est chacun sa taille.
Gros, je peux pas me péter pour la paix. Igo, c'est chacun sa paye. Le week-end, c'est chacun sa taille.
Le week-end, c'est chacun sa paye.
Si la petite fait la Rihanna. Je peux pas me péter pour la
chacun sa paye. Le week-end c'est chacun sa taille. Gros, j'peux pas me péter pour la paix. Ego, c'est chacun sa paye. Le week-end c'est chacun sa taille.
Le week-end c'est chacun sa paye.
Si la petite fait la Rihanna, j'viens la chercher en Viano.
J'viens la chercher en Viano.
Si la petite fait la Rihanna.
Même 10 ans après, je demanderai pas la paix. Visage familier pour monsieur l'OPJ. Quand le tissu elle traîne, j'ai très bien que l'OPJ elle stresse. L'air est calme et dégage pas d'aura. Il suffit d'un coup pour mettre fin au départ. Ou mettre fin à l'embrouille. Glock 17, 6 ou une dizaine. On se rapproche d'en bas, mais on tire pas en l'air. À nos canards, je ressens nos galères. 19 balais, je suis dans les temps. De corps à terre, on fait monter les stats. C'est fini l'époque des mêlées à l'extinct. Nos regards se croisent, tu continues tout droit. Paye tes dettes, sinon tu vas finir dans une salade. Des sous, on en fait. Les risques, on les prend. Position donnée, les nuits, on étrangle. Dans les mains de Bresson, il lui restait une lox. Je veux pas l'argent du raté dans les locks. Droit dans les yeux, je pourrais te laisser en off. Regard froid, t'inquiète, on gère la situation. Si tu manges une amende par l'équipe. Faudra cocher les conditions.
Les conditions, les conditions.
On vient d'écouter Rihanna de 2ZJ. L'émission AC Live continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Nos chroniqueurs Younes, Ismaël, Sofia et Marwa s'installent en studio. Comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va. Aujourd'hui, vous venez nous parler des avortements et stérilisations forcées à La Réunion.
Dans les années 1960-1970, à La Réunion, des pratiques d'avortement et de stérilisation forcées ont eu lieu.
En effet, des avortements illégaux ont été pratiqués, souvent sur des femmes pauvres, sans leur consentement. Dans certains cas, ces stérilisations ont été aussi pratiquées sans le consentement des patientes. Beaucoup de victimes étaient défavorisées, souvent originaires de communes moins riches, peu écoutées dans la société. Une affaire a été révélée vers 1970. Une jeune femme a été hospitalisée en urgence à cause d'une hémorragie suite à un avortement forcé.
Il faut savoir que dans les années 1970, l'avortement est interdit. Mais à La Réunion, l'État se permet de faire de l'avortement forcé.
En 1971, il y a eu un procès pour manœuvre abortive, qui signifie que des actions faites pour provoquer un avortement, mais les victimes n'ont pas eu de reconnaissance officielle pendant longtemps. Leurs excuses pour ces pratiques sont la surpopulation de La Réunion, de pauvreté et d'analphabétisme de population, qui ont été reçues comme à risque. C'est perçu comme une pression ou un encouragement à limiter les naissances.
En décembre 2018, il propose à l'Assemblée nationale de mettre la lumière sur ces pratiques pour en établir l'ampleur et les responsabilités.
Malgré cette mise en lumière, il y a encore aujourd'hui des femmes comoriennes qui partent à Mayotte pour accoucher afin de bénéficier du droit du sol français. Sauf que cela a créé un flux migratoire à Mayotte. Donc, une question a été posée par Madame Ségolène Amiot, une députée à l'Assemblée nationale en 2023, qui est de stériliser ces femmes comoriennes pour qu'elles ne viennent plus sur le territoire français d'outre-mer.
Mais du coup, est-ce qu'il y a eu une réaction de la part de l'État français?
Non, il n'y a eu aucune réaction.
Merci à vous.
Et maintenant, on écoute Louise Faustine et Antonia pour une discussion sur l'inclusion au théâtre. Bienvenue les filles.
Bonjour, je suis en compagnie de Louise et Faustine, des journalistes. La question du jour est: le théâtre se veut un miroir de la société, mais si ce miroir ne reflète qu'une seule couleur, peut-on encore parler d'un art universel? Suite à notre visite au théâtre L'Avant-Scène à Colombes et à la pièce de Moon, nous avons remarqué qu'il y avait un manque de diversité dans la salle. Donc on va se demander si le théâtre est raciste ou cherche à devenir inclusif. Je vais donc passer la parole à Louise, notre première journaliste.
Bonjour Antonia, je pense d'abord qu'on peut constater qu'il y a un gros manque de diversité, autant sur scène que dans la salle, et que dans beaucoup de pièces classiques, les rôles principaux sont écrits pour des personnes blancs, donc les comédiens de couleur ont peu d'opportunités.
Bonjour Antonia, bonjour Louise. Oui, je suis d'accord, et en plus de ça, généralement, le peu de fois où une personne racisée est représentée, elle est remplie de clichés ou discriminations, donc bien sûr que le manque de modèles décourage tout le monde.
Et encore aujourd'hui, dans plusieurs pièces, certains metteurs en scène refusent d'adapter leurs classiques pour plus d'inclusivité. Et on continue de jouer les œuvres comme elles sont écrites, sans se questionner sur leur vision du monde.
Après, ce que je trouve bien, c'est que certains réalisateurs prennent l'initiative aujourd'hui de prendre des acteurs racisés pour jouer n'importe quel rôle, comme dans le casting de Colorblind.
Exactement, les réalisateurs recherchent un talent, une personne plutôt qu'une couleur de peau ou une origine. C'est pour ça que de nombreuses initiatives existent, comme le Théâtre du Soleil, qui met en avant la diversité.
Oui, donc pour répondre à ta question, Antonia, certaines fois, le théâtre reste raciste, surtout dans les classiques. Mais beaucoup de nouveaux réalisateurs et de nouveaux théâtres cherchent à supprimer ces discriminations et à faire évoluer ce milieu.
Merci les filles. Deuxième question. Par conséquent, faut-il faire partie d'une certaine classe sociale pour accéder au théâtre ? Je te laisse la parole, Faustine.
Alors personnellement, je pense que le problème est que le théâtre de l'époque était très élitiste et réservé aux nobles.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pour ça que certains théâtres ont gardé le même mécanisme en proposant des prix très élevés qui peuvent monter jusqu'à 50 euros. Leur but est de garder le même modèle qu'à l'époque.
Un autre problème qu'il ne faut pas négliger, certains jeunes ont des parents avec peu de moyens ou qui n'ont jamais été éduqués là-dedans, donc n'ont jamais eu l'habitude d'aller au théâtre.
T'as raison, mais aujourd'hui on a la chance avec des écoles, des associations ou le Pass Culture qui nous offre la possibilité d'accéder à ce domaine à des prix très accessibles ou totalement gratuits.
C'est vrai, en plus le théâtre est un art universel qui aborde tous les sujets, donc tout le monde peut y retrouver son bonheur.
Pour répondre à ta dernière question, Antonia, je dirais qu'à l'époque, oui effectivement, on peut pas le nier, il fallait faire partie d'une classe sociale, mais aujourd'hui avec toutes les aides de l'État, tout le monde peut y avoir accès dans ce domaine.
Merci à vous les filles, c'était très intéressant. On est maintenant plus renseignés sur le sujet. À bientôt.
Merci encore pour ce sujet très intéressant, les filles. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Quand elle passe dans la zone, j'ai encore sa voix qui résonne. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. À personne elle ressemble. En plus, j'aime bien son caractère. J'ai des sentiments, il me semble. Mais j'y dis pas, je suis trop terre-terre. J'aime bien cette girl. Je crois bien que c'est mon coup de cœur. Elle se plaint que je reste au secteur. Pour moi, elle a peur. Franchement, t'es jolie. Et ce boule qui met dans l'insomnie. Je pense souvent à toi quand je m'ennuie. Et toi, tu es comment sans moi. Je vois que tu me parles plus. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Quand je la calcule pas, elle fait pareil. Ma jolie, elle attend que je serre. Ma jolie. Ma jolie. Dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie. Mental Sandra Paoli. Ma jolie. Dis-moi que tu m'aimes à la folie. Les yeux d'Angelina Jolie. Mental Sandra Paoli. Chaque fois qu'elle me voit souffrir, quand elle me fait la tête, je vois mon cœur s'ouvrir. On se fait des bisous, on se fait des gâtés. Sa peau toute douce, elle me fait craquer. Mademoiselle, tu me tournes autour, ça fait longtemps. Laisse tomber, je suis avec ma jolie, je ne vois même plus passer le temps. Quand je vais la voir, je suis en Asie, sans calendi. Là, je crois bien que je vais rester avec elle jusqu'à lundi. Ma jolie, je lui fais tester mon bolide. Dans ma folie, je lui fais tester mon brolic. Et je m'affole, folle, folle, faut que je reste zen, zen, zen. C'est ma drogue, j'en picole, colle, colle. Elle me donne des zèles, zèles, zèles. Ma jolie, faut que je reste solide. Ma jolie, faut que je reste solide. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie.
On vient d'écouter Ma Jolie de Jul. L'émission AC Live continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Nos chroniqueurs Luca, Sarah, Anna, Sophia et Amandine s'installent en studio. Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va. Aujourd'hui, vous venez nous parler des droits des femmes à l'international.
Merci Aimeré. Aujourd'hui, on va vous parler du droit des femmes, un thème central dans la pièce d'Omoun. Entre 1962 et 1984, le droit des femmes était très limité, surtout à La Réunion. À cette époque, beaucoup de femmes réunionnaises ont été victimes d'actes graves commis sans leur accord.
on les faisait avorter ou on les stérilisait de force, souvent sans qu'elles comprennent ce qui leur arrivait. Ces pratiques étaient justifiées par le pouvoir en place comme une façon de contrôler la natalité ou de lutter contre la pauvreté. Mais en réalité, c'est une atteinte directe à leur liberté et à leur dignité, c'est-à-dire le respect que l'on doit à tout le monde.
Bah, tu vois, la réunion des années 70, c'était tellement limité que l'État s'est dit qu'à cette île pondeuse, il valait mieux lui ligaturer les troncs.
Aujourd'hui, j'aimerais ici rendre à l'État sa responsabilité, qu'il comprenne que ce n'est pas notre honte, c'est la sienne. Nous avons été enlevés, déracinés. Nous réclamons des réparations de nos corps, mais surtout de nos cœurs.
On vient d'écouter un extrait de la pièce d'Omoun, qui a interprété le sujet des avortements forcés. Ces femmes ont été privées du droit le plus fondamental, celui de disposer de leur propre corps. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point leurs droits étaient réduits et ignorés. Cette période sombre de l'histoire montre que le combat pour l'égalité et le respect des femmes n'a pas toujours été acquis. C'est grâce au courage de celles qui ont dénoncé ces injustices que la société a fini par ouvrir les yeux. Se souvenir de ce qu'elles ont vécu, c'est aussi rappeler que les droits des femmes ne doivent jamais être pris pour acquis ni oubliés.
Dans cette pièce, on y découvre l'histoire de ces mères réunionnaises à qui on a arraché leurs enfants pour les envoyer en métropole. Une injustice profonde qui fait réfléchir sur la place et la voix des femmes hier et aujourd'hui. Effectivement, depuis cette époque, les choses ont beaucoup évolué. Les femmes ont conquis des droits essentiels. L'accès à tous les métiers, l'égalité devant la loi, le droit à l'éducation et à disposer de leur corps. Des droits qui semblaient évidents aujourd'hui, mais qui ont été arrachés par des générations de femmes courageuses. Comme celles que l'on voit dans Doumoun, prêtes à se battre pour leurs enfants et pour leur dignité. Dans Doumoun, ces injustices résonnent. On y sent le silence imposé, la souffrance et ce sentiment d'impuissance que beaucoup de femmes vivent encore aujourd'hui, sous d'autres formes. Face à cela, les institutions ont un rôle clé. L'ONU avec ONU Femmes ou encore l'Union Européenne agissent pour l'égalité réelle. En France, des associations se mobilisent pour que la parole des femmes soit entendue, pour que la mémoire des mères de Doumoun ne soit jamais oubliée. Parce que défendre les droits des femmes, c'est aussi défendre la justice, la mémoire, l'humanité et l'égalité.
Du coup, l'évolution des droits des femmes a vraiment changé notre société. Avant, les femmes n'avaient presque aucun droit. Elles ne pouvaient pas voter, travailler librement ou même faire des études. Aujourd'hui, grâce à des grandes avancées, elles peuvent aller à l'école, avoir un métier et s'exprimer comme les hommes. Ça a permis de réduire les inégalités et de rendre la société plus juste. Le fait qu'elles participent à la vie économique et politique apporte de nouvelles idées et rend le monde du travail plus équilibré. Ça crée plus de respect, de liberté et de tolérance entre les gens. En résumé, les droits des femmes ont rendu notre monde plus égalitaire et plus ouvert qu'avant.
Les droits des femmes ont profondément transformé nos sociétés. Grâce aux luttes féministes, les femmes ont obtenu le droit de vote, par exemple en France, en 1944, le droit à l'avortement avec la loi Veil de 1975 et les lois sur l'égalité salariale ou la lutte contre le harcèlement. Ces progrès ont permis aux femmes d'accéder à tous les domaines de la société. Aujourd'hui, on trouve des femmes ministres, scientifiques ou chefs d'entreprise, comme par exemple Christine Lagarde, à la tête de la Banque Centrale Européenne. Mais malgré ces avancées, de nombreux défis subsistent. Les femmes gagnent encore en moyenne entre 15 à 20% de moins que les hommes. Elles sont encore minoritaires dans les postes du pouvoir. À l'Assemblée nationale, il n'y a que 37% des femmes députées. Et surtout, les violences faites aux femmes demeurent un fléau. En France, une femme perd la vie tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Alors oui, les droits des femmes ont eu un impact énorme sur notre société, mais le combat pour une vraie égalité continue. Chacun de nous doit agir pour que ces droits soient vraiment respectés au quotidien.
Merci à vous.
Pour finir, Raïs, Albert, Sarah, Jeanne et Lilou vont nous interpréter un témoignage de Marie-Vonne et Jeanlin, personnage de la pièce de théâtre.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire bouleversante des enfants de la Creuse. Dans un instant, les deux personnages protagonistes de l'histoire témoigneront. Marie-Vonne prendra la parole pour nous partager la douleur, la colère et l'impuissance d'une mère qui voit sa fille être emmenée loin d'elle sans pouvoir la retenir. Puis ce sera au tour de Jeanlin, son fils, de s'exprimer. Il nous racontera la tristesse, le manque et la solitude qu'il a ressenti en étant séparé de sa sœur. À travers leurs témoignages, on va découvrir la souffrance vécue par ces familles, mais aussi la force et le courage qu'elles ont dû trouver pour continuer à vivre malgré tout.
Bonjour, je m'appelle Marie-Vonne. Je suis la maman de 2 enfants, Jeanlin, mon fils, et Marie-Ange, ma fille. Pendant des années, j'ai vécu dans la honte et le silence. Je ne savais pas lire ni écrire. À l'hôpital, lors d'un simple rendez-vous, on m'a tendu des papiers. On m'a dit que c'était pour le bien de ma fille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait confiance et j'ai signé. Ce jour-là, ma petite Marie-Ange, 3 ans à peine, m'a été enlevée. Je l'ai vue s'éloigner sans savoir que je ne la reverrai plus jamais. Moi, je suis restée à La Réunion, avec mon fils Jeanlin, avec le vide, la honte et la culpabilité. Je n'ai rien dit à personne car c'était tabou. J'ai gardé le silence pendant presque 40 ans. J'ai dû continuer à vivre, à sourire, à travailler. Mais chaque nuit, chaque anniversaire, chaque regard d'enfant me ramenait à elle. Et puis un jour, la honte s'est transformée. Elle s'est changée en colère. Parce que non, ce n'était pas moi la coupable. J'étais une mère à qui on a arraché son enfant. Comme tant d'autres ici sur cette île. On les a appelés les enfants de la Creuse. Mais moi, j'appelle ça plutôt un arrachement ou une injustice. Aujourd'hui, je parle, je ne me cache plus. Je parle pour toutes celles qu'on a fait taire, pour tous ces enfants déracinés. Je parle pour dire que je n'ai jamais abandonné ma fille, Marie-Ange. Je suis Marie-Yvonne, une mère blessée mais debout. Et tant que je vivrai, je garderai l'espoir de revoir Marie-Ange pour lui dire enfin ces mots qu'elle n'a jamais entendus. Je t'aime et je ne t'ai jamais oublié.
Je m'appelle Jeanlin. Je suis né sur l'île de La Réunion, une terre chaude vivante, pleine de lumière. Ma mère, Marie-Yvonne, c'est une femme forte, courageuse, souriante, même quand la vie lui faisait mal. Et puis, il y avait ma petite sœur, Marie-Ange, 3 ans. Des yeux brillaient comme dans le lagon. Un rire qui faisait danser toute la maison. Mais un jour, tout a basculé. Marie-Ange est partie. Elle n'est jamais revenue. C'était à l'époque des enfants de la Creuse. De centaines d'enfants réunionnais, arrachés à leur famille, déracinés, perdus. Ma mère l'a cherchée partout. Chaque jour, chaque nuit, et chaque fois que nous avions du temps, nous prions le ciel. Moi, j'ai grandi avec ce silence, cette question qui me brûle encore. Où est ma sœur? Aujourd'hui, si je parle, c'est pour elle, pour Marie-Ange, et pour tous ces enfants à qui on a volé leur enfance. Je veux qu'on se souvienne, que l'on n'oublie jamais leur visage, leur nom et leur histoire. Parce que, tant qu'on n'a pas la parole, ils seront perdus. Et puis, plein d'émotions, 40 ans plus tard, je l'ai revue. Ma sœur Marie-Ange était là devant moi. Les années passées, dans son regard, je retrouvais la petite fille au jeu de lagon. On s'est pris dans les bras et à cet instant perdu, n'existait plus. Seulement l'amour, seulement nous.
Merci à vous.
C'est la fin de notre émission AC Live. Merci à la classe de 1T1 de Albert Camus et à Emre, mon co-présentateur. Merci aussi à Clara, Léa, Inès et Rania pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.